Voilà, donc moi et ma famille, on est content d'être avec vous. Hein. Tous les 6 mois, on essaie d'être là, chaque fois qu'on vient voir ma famille. Je suis originaire d'ici, hein. J'ai grandi au 76 boulevard Emmanuel Rouquier, donc je ne suis pas de si loin. Je me suis exilé en Belgique pour me marier à une Belge. Et tous les deux, nous sommes missionnaires avec la mission évangélique belge. J'ai fait mes études d'ingénieur à Nice. Après, je suis monté en Belgique, travaillé 5 ans. Et suite à cela, j'ai décidé de suivre un parcours que j'aimais encore plus que le métier d'ingénieur, qui est celui de prendre la responsabilité d'une église en implantation avec 2 autres collègues, et de suivre en même temps, en parallèle, des études de théologie à la faculté évangélique de théologie à Leuven. Bon, c'est très loin d'ici. Donc en master. Mon épouse est chargée des relations publiques de la mission évangélique belge. Et voilà, donc tous les deux, on est vraiment contents d'être ici. Il y a 5 ans, nous étions là parmi vous pour la première fois au mois de janvier. Hein, c'était pour vous une année de transition, et pour nous aussi, parce qu'on venait de difficultés d'église assez conséquentes. Et nous ne savions pas qu'ici, vous aviez eu aussi quelques souffrances. Et nous avons vu une unité, nous avons vu une authenticité qui nous a dit, tiens, ça existe, on peut, c'est possible. Et donc, sans le savoir, vous nous avez beaucoup encouragés par vos échanges. Parfois, on sentait qu'il y avait quelques tensions, mais on était très encouragés que c'était possible d'avoir des relations fraternelles authentiques. En accord avec la parole de Dieu. Alors merci encore pour l'opportunité à Daniel pour ma part ce matin de vous parler de Romains 8. J'ai demandé à ne pas afficher les versets à l'écran pour la raison suivante, c'est que je vais lire dans la version traduction œcuménique de la Bible et si nous on affichait ce mœurs, ça serait peut-être trop de disparités qui troubleraient notre attention. Donc on va le faire à l'ancienne, comme ces lettres ont été écrites dans l'idée d'être lues, pour être écoutées, je veux dire, plutôt qu'être lues de façon personnelle. Alors quand nous allons aborder la lecture du passage en question, on va vraiment essayer de tendre l'oreille pour voir ensemble, écouter attentivement ce que l'apôtre Paul a à dire dans ce chapitre culminant, hein, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Alors on va commencer, et pour commencer je vous propose de prier simplement pour que le Seigneur nous ouvre notre intelligence, qu'il dispose nos cœurs, hein, et qu'on puisse recevoir sa parole. Hein, ça vous va comme programme? Prions ensemble. Seigneur Dieu, c'est toi qui dissipes les ténèbres de notre cœur, qui ouvre notre intelligence, qui dispose nos cœurs. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions être bien disposés à recevoir ta parole ce matin. Dans l'esprit de soumission, nous voulons nous souvenir qu'il est bon d'avoir été créé par toi. Nous voulons nous souvenir qu'il est bon d'avoir été créé à ton image. Mais nous savons aussi que, parfois, même souvent, nous ne voulons en faire qu'à notre tête. Notre intelligence s'obscurcit. Nous perdons pied. Alors Seigneur, viens à notre secours. Rappelle-nous encore une fois que nous sommes la lumière du monde. Au nom de Jésus. Amen. Donc Jésus, dans le sermon sur la montagne, avant de passer à notre texte d'aujourd'hui, en Matthieu 5, s'adresse à une foule, et dans cette foule, il y a ses disciples. Mais c'est très important de garder l'attention que ce qu'il va leur dire, il va le dire à la foule entière, et pas juste à ses disciples. Il va donc leur dire, vous êtes la lumière du monde. On a tellement l'habitude d'entendre ça, hein, qu'on se demande vraiment la portée de ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la puissance de ces mots? Peut-être c'est parce qu'on en doute de la réalité en question. Mais essayez juste de tester la puissance de ces mots. Tournez-vous vers quelqu'un ici et dites-lui, tu es la lumière du monde. Essayez. D'accord? Est-ce que quelqu'un se sent triste à l'idée d'entendre cette nouvelle? Peut-être aussi il y a des personnes qui se disent « Ah, enfin, il y a quelqu'un qui reconnaît la lumière en moi. Je savais que j'étais une lumière, quelque part. » Peut-être on réagit différemment à cette phrase. Peut-être certains ont peur. Peut-être certains tomberaient en dépression d'entendre cette idée, sachant tout ce qui se passe en eux, turbulence. Essayez de vous imaginer d'ailleurs vous-même, devant votre propre miroir, vous regarder, vous dire « Je suis la lumière du monde. » Peut-être encore plus difficile, n'est-ce pas? Plus difficile. Pourquoi? Parce que, après tout, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la réalité. Et pourtant, Jésus dira à une foule, peut-être qu'il n'a pas encore compris, autant que ses disciples qui, bon, il faut le dire, n'avaient pas forcément non plus beaucoup compris à ce moment-là, « Vous êtes la lumière du monde. » Qu'est-ce que ça veut dire qu'être privé de la gloire de Dieu? Pour faire justice au contenu, je veux dire, de l'Épître aux Romains, je dirais que être privé de la gloire de Dieu, c'est avoir perdu de vue son appel. Être privé de la gloire de Dieu, c'est avoir perdu de vue son appel. On va essayer de garder cette phrase en tête, qui va revenir plusieurs fois. Et c'est un appel à être lumière du monde. C'est ça le cœur, pour moi, du message du salut, que souvent on met entre parenthèses, que l'on personnalise comme un message de secours, et c'en est un. Mais on oublie que c'est un appel, avant tout, une restauration, à être lumière du monde. Alors, bon, ça va être assez simple comme schéma, à la lecture de Romains 8. On va se poser les questions, qu'est-ce que ça veut dire d'être privé de la gloire de Dieu? Quelles sont les conséquences? Puis, si c'est un rapport avec cet appel de Dieu que l'on a oublié, on va se poser la question, quel est cet appel? Puis, on va se poser la question, comment retrouver cet appel? Et on fera un peu un résumé pour voir quelles sont les conséquences d'avoir retrouvé cet appel. Mais avant de passer donc à la lecture de Romains 8, on se pose cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences d'avoir été privé de la gloire de Dieu? L'Épître aux Romains, de la même façon que Genèse 2, verset 17, aura cette même conséquence. Vous mourrez. Vous mourrez. C'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève lorsqu'ils ont été tentés de vivre leur liberté en dehors de la dépendance à Dieu. La mort, mais la mort dans son sens le plus large, pas juste un arrêt de battement de cœur ou le cerveau qui défaille. La mort, dans un sens qui atteint l'individu tout entier, dans sa dimension spirituelle, mais pas que l'individu. La communauté dans laquelle l'individu se trouve aussi. Le pays dans lequel cette communauté se trouve. Et aussi la création tout entière. C'est ce qu'on va lire dans Romains 8 tout à l'heure. La souffrance de la création, c'est cela dont il est question. La mort en question, c'est la souffrance de la création. C'est un monde en souffrance. Ça s'explique tout seul, vu ce qu'on a encore vu la semaine passée. Cette semaine, peut-être. La nature en souffrance. L'extinction de certaines espèces. Réchauffement climatique. Mais aussi des pays et des peuples en souffrance. Des guerres, des dettes économiques, chômage. Toutes sortes de menaces terroristes, l'exploitation de certains peuples, des familles en souffrance, précarité, des disputes, des jalousies, des tromperies, des séparations, même si dans les moments de barbecue ou de fête, on va en généralement blaguer de ces choses-là, mais on est détruit au fond. Des individus en souffrance, solitude, trahison, rejet, incompréhension, dérèglement relationnel, émotionnel, problème d'identité, instabilité, dégradation du corps, désir, convoitise incontrôlée, frustration qui vont avec tout ça, et bien sûr la maladie et la mort. Tout ce que je viens de dire là, c'est le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. La conséquence d'être privé de la gloire de Dieu. Quelle souffrance! Partout. Dehors, loin, proche, partout, à l'intérieur de nous. On aura envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Être privé de la gloire de Dieu, c'est cela. Et le texte que nous allons lire va nous montrer que cela a un lien avec le fait d'avoir perdu son appel. Et alors, l'appel de Dieu, qu'est-ce que c'est? Lisons Romains 8 ensemble, prêtons l'oreille. Je vais lire Romains 8 à partir du verset 13. Pour la première lecture, il n'y aura qu'une seule lecture, mais après je reviendrai sur le texte. Première lecture, écoutez attentivement. Pour le reste, vous pourriez prendre ensuite une Bible pour comparer vos versions. Si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons aussi part à sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livrée au pouvoir du néant, cette création, non de son propre gré mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, elle garde néanmoins l'espérance. Elle sera libérée en effet de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède en nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés, appelés selon son dessein. Ce que d'avance il a connu, il les a aussi prédestinés. À être conforme, prédestiné à être conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment avec son Fils ne nous donnera-t-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim, le dénuement, le danger, le glaive, selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si cette lecture suffit, mais vous voyez des parallèles entre la mort et la vie, entre la chair et l'esprit, entre la souffrance et la gloire. Pour ceux qui sont accoutumés à la lecture de l'Ancien Testament, Paul est juste en train de faire une relecture de la Genèse et du livre de Deutéronome. Il est en train de mettre ces parallèles entre la vie et la mort, entre le choix de Dieu et ne pas choisir Dieu, entre comprendre son appel et boucher ses oreilles. Être privé de la gloire de Dieu, nous avons dit, c'est avoir perdu de vue son appel. Quel est cet appel? Est-ce que vous vous êtes posé la question quand vous avez écouté ce texte? Pourquoi Paul, au verset 19, parle tout à coup de la création? Quelque part, c'est intéressant parce que lorsque, en tant qu'évangélique, nous présentons le message du salut, on parle peu de la création, voire pas. En général, ça va se présenter comme ça, ce que nous racontons. Nous lisons, nous étions tranquillement, gentiment, bien agréablement assis dans le jardin, puis quelqu'un est venu nous embêter. Ok ? On a choisi d'écouter cette personne, puis on a désobéi. Puis la mort est entrée. Et puis un jour, un super-héros est arrivé, et il a pris notre culpabilité, et voilà. Bien sûr, une caricature, n'est-ce pas, de ce que nous racontons. Version accélérée, souvent que l'on présente sous forme de flyers. Mais on rate pas mal de choses. Parce que tout le message du salut s'inscrit dans la création. Parce que c'est un message de restauration du plan de Dieu tel qu'il était prévu à l'origine. Cet appel que Dieu adresse à l'humanité. Vous voyez dans le texte, versets 28 à 30, pour ceux qui ont la Bible devant les yeux, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, certes, bien, qui sont appelés selon son dessein. » Et en quoi consiste cet appel? Il consiste à être, verset 29, « restauré à l'image du Fils ». Ça, c'est le projet de Dieu. Okay? Ce n'est pas juste de venir nous donner un ticket pour le ciel, en disant « Voilà, maintenant, vous pouvez, lorsque vous serez rentré dans le ciel, donner le mot de passe, c'est Jésus le mot de passe. Hein? » Ça va au-delà de ça. Hein? Le message de l'Évangile va au-delà d'avoir sa place confortablement préparée dans le ciel. C'est un message qui est prévu pour vivre dans notre présent comme fils et fille de Dieu. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. C'est pour cela que la notion d'appel dans ce texte est liée à la notion d'image. Et c'est pour ça que cette notion d'appel est aussi liée à cette notion de gloire. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. En théologie, on appelle ça la chaîne dorée. Hein? Cette chose qu'on ne peut pas briser. Cette œuvre que Dieu a commencée, qu'il ne peut pas annuler en nous. Nous avons été appelés, nous serons conduits à la gloire. Mais cette gloire, verset 19, elle est au bénéfice de la création. C'est la création tout entière qui attend la révélation des fils de Dieu et qui va prendre part à cette gloire. Alors, on va essayer de comprendre tout cela. Parce que Paul, fortement versé dans l'Ancien Testament et dans la culture juive, va utiliser la notion d'image de Dieu pour nous renvoyer à la Genèse. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'au chapitre 1, verset 23 de l'Épître aux Romains, il va dire quelque chose de très important. Il va dire que les païens ont troqué la gloire de Dieu contre les images, représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. Alors bien sûr, on lit ça, on se dit, ben, c'est l'idolâtrie, et c'est le cas. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi est-ce que Dieu, en Deutéronome 4, dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce qu'il demande de ne pas construire d'images et de ne pas les adorer? Pour quelle raison, selon vous? Oui, c'est intéressant parce que cette notion-là, elle est centrale à les religions anciennes de l'époque qui entouraient Israël. C'est que ces religions ancestrales formaient une idole qu'il plaçait au centre d'un temple. Et cette idole avait les caractéristiques de la divinité qui était adorée. Et donc, Paul, ici, fait référence à quelque chose qui est central. Il est en train de nous dire, vous avez été fait à l'image de Dieu. Vous êtes censé jouer ce rôle-là. Vous êtes censé être le reflet de la gloire de Dieu auprès de toute la création. C'est votre rôle. Vous ne pouvez pas le déléguer à une petite statuette. Ce n'est pas son rôle. D'ailleurs, elle ne peut rien faire. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, on rigole bien de l'idole faite de bois qui ne peut ni marcher ni prédire l'avenir. Et ce qu'on apprend de cela, c'est que notre rôle premier est d'être ambassadeur de Dieu. L'image de Dieu en nous, cette représentation, est pour la création. Nous devons être ambassadeurs de Dieu auprès des autres. Quelle responsabilité! Lorsqu'on se regarde alors dans le miroir et qu'on se dit « Je suis créé à l'image de Dieu », ce n'est pas que ça me donne des droits, mais des devoirs. Devoir de refléter Dieu et ses attributs à tous ceux qui sont autour de moi, des êtres humains, jusqu'à toute chose qui se meut sur la terre, et aussi porter notre responsabilité au reste de la création. Alors, deux éléments. Ce n'est pas une représentation passive, mais active. Et ça, je vais développer plus loin, contrairement à l'idole qui est passive. De deux, cette responsabilité ne peut s'exercer justement que dans la soumission à Dieu, contrairement à ce que pensaient Adam et Ève. On fait un rapide survol maintenant. Genèse 1 à 2, Adam et Ève reçoivent un appel. Une mission de garder et de cultiver le jardin, d'être ambassadeur en tant qu'image de Dieu, de garder la création. Sauf qu'ils ont un autre plan. C'est d'utiliser ces attributs divins pour se servir eux-mêmes et d'être comme Dieu et d'utiliser la création plutôt que de la gérer comme Dieu voudrait. En ce sens-là, ils perdent de vue leur appel, leur responsabilité. Genèse 12. Dieu appelle Abraham. Pour être quoi? Une bénédiction pour les nations. Pas juste, tiens Abraham, tu es mon préféré. Non, je t'ai choisi afin que tu deviennes une bénédiction pour les nations. Que tu sois un ambassadeur pour le reste de la création. C'est cela que Israël doit faire. C'est pour cela que Dieu donne sa loi. Afin qu'il soit lumière parmi les nations. Et le chapitre 1 jusqu'à 3 de l'Épître aux Romains, Paul va passer tout son temps à expliquer une chose. Vous avez raté votre mission. Vous avez perdu de vue votre appel. Vous êtes devenus comme ceux qui vous entourent. Si bien qu'au verset 24 du chapitre 2, il dira « Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations. » Complètement le contraire de la mission prévue par Dieu en les formant à son image. Alors, on doit bien comprendre en tant qu'Église que le projet de Dieu de toute éternité, c'est d'avoir placé son esprit dans des créatures afin qu'elles soient le reflet de sa gloire auprès de la création. Son projet en Jésus-Christ est précisément de restaurer cette image, ce reflet qui est terni par le péché. C'est ce que nous avons lu dans Romains 8, versets 28 à 30. Son projet est de nous rendre conformes à Jésus-Christ. Pas moins que ça. Et c'est vrai que nous commençons par le pardon, nous sommes introduits à la vie de l'Église par le pardon et la réconciliation, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Le projet de Dieu est juste de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Juste. Comment est-ce qu'il va faire pour faire cela? Versets 15 à 16. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste au nôtre que nous sommes enfants de Dieu. Le Dieu auquel l'humanité a désobéi, le Dieu qui a vu toute la souffrance qu'on a décrit au début de ce message, le Dieu qui a engendré le monde qui s'est transformé en un lieu de souffrance, c'est ce même Dieu qui nous établit comme ses enfants. C'est ce Dieu qui nous adopte. C'est ce Dieu qui crée une relation intime avec nous et non plus légale. Il supprime le rapport judiciaire chapitre 5 à 8, entre nous et lui, et installe un rapport filial entre un parent et son enfant. Et il fait cela par la croix de son Fils. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, verset 1 du chapitre 8. Comment est-ce que Dieu restaure notre appel ? Il nous donne une identité de fils et de fille de Dieu. Ça mérite de méditer un peu là-dessus. Résumons un petit peu, avant de passer à la dernière partie. L'appel de Dieu, c'est vivre comme image de Dieu, conscient d'être le reflet de sa gloire auprès de la création tout entière. Comment retrouver cet appel ? Prendre conscience que par Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants. Il a supprimé le rapport judiciaire qui nous séparait et il nous a établis dans un rapport de parents-enfants. Il resserre les liens entre lui et nous, et il resserre les liens entre nous et le reste de nos frères et sœurs. Et son projet est de nous conduire à être transformés dans le caractère et l'image parfaite de Jésus-Christ. Et ça commence maintenant. Ça se terminera parfaitement à la fin, lorsque Jésus-Christ reviendra. Mais cela commence maintenant. Alors les conséquences, ça semble presque évident, je veux dire. Selon vous, qu'est-ce que ça pourrait faire que plus de chrétiens aient le caractère de Jésus-Christ ? Que plus d'êtres humains, en général, aient le caractère de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que ça pourrait faire sur cette terre comme effet ? Irénée de Lyon, un des piliers de l'Église du IIe siècle, dira cette phrase que je trouve un bon résumé. Il dit « Jésus-Christ, à cause de son surabondant amour, est devenu ce que nous sommes, afin de faire de nous ce qu'il est. » Quelle différence ce que cela pourrait faire d'être avec plus du caractère de Jésus. Et quand vous lisez ou relisez le verset 19, vous recomprenez toute la responsabilité de notre appel. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. On pourrait paraphraser ça comme ça. La création attend que chrétiens et chrétiennes prennent conscience qu'ils sont fils et filles de Dieu, appelés à être le reflet de sa gloire, bon gérant de cette création. Lorsque Dieu appelle une personne à le suivre, il en fait de lui son fils ou sa fille. Il commence un processus de transformation à son image, comme un restaurateur de musée, hein, si vous avez vu les restaurateurs de musée qui restaurent des anciennes pièces ternies par le temps, c'est ce que Jésus-Christ fait avec nous. Il nous restaure. Nous retrouvons chaque jour, lorsque nous marchons en obéissance avec lui, un peu plus de l'éclat de la gloire de Dieu que nous avons perdu. Finissons par quelques applications que ce texte nous invite à mon avis, à faire. Premièrement, et c'est ce qui occupera Paul finalement des chapitres 12 à 15 ensuite dans l'Épître aux Romains, nous devons rejeter le mal. C'est la première chose que des personnes qui prennent conscience de l'image de Dieu en eux doivent faire. Éviter le mal parce que nous sommes ambassadeurs de Dieu, pas parce que si on fait le mal, alors on va avoir Dieu qui va nous attendre au carrefour et qu'on va être puni. Non, pas ça. C'est juste qu'on doit se dire, non, je ne peux pas faire ça. L'image de Dieu ne fait pas ça. Ce n'est pas qui je suis. On doit tout redéfinir notre action par rapport au péché en nouvelle identité. Ce n'est pas qui je suis. Je ne peux pas faire cela. Ce n'est pas un comportement digne de l'image de Dieu. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Souvent, en tant que chrétien, avec le temps, des fois, on finit par devenir juste des personnes qui essayons d'éviter de faire le mal. Mais la parole de Dieu nous pousse plus loin. Si vous prenez des psaumes comme le psaume 34 ou le psaume 37, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix et la justice. » Souvent, quand on discute avec des non-croyants, ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous essayez de leur expliquer la bonne nouvelle de l'Évangile, le pardon des péchés. Et souvent, vous avez des personnes qui disent « Mais oui, mais on est tous quelque part un peu imparfaits. On fait tous des erreurs, mais je ne pense pas que je suis pire qu'un autre. » Et souvent, en tant que chrétien évangélique, on essaie de faire en sorte de faire comprendre à la personne que non, elle est vraiment pécheur et qu'elle a vraiment besoin d'être sauvée, ce qui est en fait tout à fait vrai. Et en faisant cela, parfois, on ferme la conversation parce que la personne se sent attaquée de jugement. Mais peut-être ce texte nous ouvre une autre approche à la personne qui dirait « Mais moi, je ne fais rien de mal. » Nous pourrions simplement dire « Mais nous sommes appelés à faire plus qu'éviter le mal, nous sommes appelés à faire le bien. » Nous avons une identité qui nous permet de faire cela. Est-ce que tu n'as pas voulu faire de ta vie quelque chose de plus que ce que tu fais ? Et cette idée de l'image de Dieu perdue dans la personne, à retrouver, c'est un nouveau départ que l'on peut donner à la personne à qui on communique. Et même dans l'Église, il faut faire attention, parce que parfois, nous avons, en s'endormant un petit peu, un esprit de consommation, un esprit passif. On devient à nouveau des idoles, un petit peu comme la statuette placée dans un temple qui ne sert à rien. Et on perd complètement notre rôle d'être lumière du monde. On consomme des biens religieux. Celui qui ne fait rien de mal n'est pas pour autant occupé à faire le bien. Deuxième point, ou plutôt troisième, nous sommes appelés par ce texte à reconsidérer la création de Dieu. Dans cette optique du bien, de faire le bien, ce passage nous invite à reconsidérer notre rapport au reste de la création. Et quand je parle du reste de la création, je ne m'arrête pas aux êtres humains. Je parle aussi de la nature, plantes et animaux. Parce que dans ce texte, le mot que l'apôtre Paul a choisi, dans le texte original, fait bien référence à l'entièreté de la création, pas juste les autres qui ne sont pas encore chrétiens. Vraiment le cosmos complet, la nature. Ce n'est pas d'ailleurs le mot cosmos, mais le mot ktisis, nature, qui est utilisé derrière. Création naturelle. Alors peut-être qu'on devrait reconsidérer ce que ça signifie d'assujettir la terre. En Genèse 1, 28. Mieux comprendre ce que cela veut dire à la lumière d'être bon gérant à l'image de Dieu. On comprendrait d'ailleurs mieux pourquoi Dieu, en Lévitique 25, va commander le repos de la terre et va être prêt à faire plus loin que cela, jusqu'à menacer le peuple entier en disant « Si vous ne donnez pas son repos à la terre, vous partirez de cette terre. » Je vous déporterai. On devrait peut-être remettre, pour certains, nos perspectives peut-être un peu trop utilitaristes de la terre, des ressources de Dieu, et devenir de meilleurs gérants, sans pour autant virer dans un écologisme absurde, mais quand même, réfléchissons sérieusement. Et le dernier point auquel je voudrais attirer votre attention, c'est la fin du chapitre 8. Paul termine toute cette tirade sur notre responsabilité d'être image de Dieu par quelque chose de central. Il dira « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que ultimement, on ne risque rien du tout. On peut prendre des risques. Des risques pourquoi, vous allez me dire? On peut aller vers le différent, la personne qui n'est pas aimable. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, mais il y a cette personne au travail, tu ne comprends pas. Elle est tellement difficile, tu ne pourrais même pas rester avec elle 2 minutes. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, mais ce frère et cette sœur dans l'église, il est pénible. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Prends un risque. Prends un risque, espère, gémis, Je ne sais pas si vous avez été attiré dans ce texte à voir les trois gémissements qui sont là. Quelles sont les trois entités qui gémissent dans Romains 8 ? Création, l'esprit et nous. Ok ? L'homme. D'accord ? C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire « prends un risque » quand il va dire au verset 19 « la création, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu ». Juste avant, il est question de « vous inquiétez pas, on sait qu'on souffre, mais cette souffrance actuelle ne vaut rien comparée à la gloire à venir ». C'est pour cela, prends un risque de devenir image de Dieu, prends un risque de d'être à l'image de Jésus-Christ, continue d'espérer en ce frère, en ce collègue de travail, en cette personne qui est totalement insupportable. Ne te laisse pas le droit de penser que lui n'est pas à l'image de Dieu et que toi tu l'es. Il est à l'image de Dieu. Il a juste oublié. Il a juste oublié. Notre rôle est de rappeler, d'espérer, gémir, persévérer, intercéder. Aspirez à la restauration de l'image de Dieu dans... Imaginez toutes les personnes que vous ne supportez pas maintenant. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on y croit autant que lorsque Jésus nous dit « Tu es la lumière du monde. Tu dois porter cette gloire et cette espérance à ceux qui ont oublié qui ils sont. » C'est cet amour de Dieu tel qu'il a été manifesté par Jésus-Christ, en effet, qui est notre espoir, notre garantie. Une garantie que cette image de Dieu peut, doit et va être restaurée, parce que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Il va le terminer. Cet appel premier d'être porteur de la gloire de Dieu pour le bien de la création tout entière. Alors, ayons un regard généreux sur les autres, un regard d'espérance. Ils sont à l'image de Dieu, peut-être fortement ternis, sous la poussière. Mais si les chrétiens n'ont pas d'espérance pour eux, qui en aura ? Revenons à cette image du miroir et de vous-même devant, vous disant « Je suis la lumière du monde ». Ayez un regard généreux sur vous-même aussi. On ne parle pas de narcissisme ou d'idolâtrie personnelle. Hein ? On parle juste de l'œuvre que Dieu est en train de faire. Appréciez ce travail. Un regard généreux sur l'œuvre de Dieu qui conduit toute chose à son accomplissement. Revoyons peut-être le rôle de l'Église aussi, comme un centre de restauration de l'image de Dieu. L'évangélisation dans cette même perspective. Lorsque Dieu nous confie de nouvelles personnes à prendre soin, est-ce que nous voyons en eux cette image de Dieu à restaurer ? Peut-être que c'est une belle pensée à avoir. Si vous voudriez savoir comment être plus à l'image de Dieu, je vous invite à lire ensuite, pour vous-même, chez vous, les chapitres 12 jusqu'à 15 de l'Épître aux Romains. Et honnêtement, vous vous poserez la question, si déjà dans nos églises nous vivions ces recommandations de l'apôtre Paul, est-ce qu'on ne serait pas plus influent, d'une part, plus heureux, plus à l'image de Dieu? Quelle différence cela pourrait faire au niveau d'un individu, d'une famille, d'une ville, d'un pays, de peuplades étrangères si on part en mission, au niveau du monde entier? Alors prions ensemble. Que Dieu nous transforme à l'image de Jésus-Christ, car c'est son projet. C'est son projet. Prions. Père éternel, si tu nous as placés au centre de la création, ce n'est pas pour en faire ce que nous avons envie d'en faire, mais c'est pour être le reflet de ta gloire. C'est pour être des bons gérants. Seigneur, aide-nous à gérer cette création, ses ressources, que ce soit la nature, les animaux, mais aussi notre prochain, notre frère, notre sœur, celui qui est semblable à nous. Aide-nous à avoir un regard généreux, désireux de voir la gloire resplendir sur leur vie. Aide-nous à être des ambassadeurs. Révèle en nous cette image perdue, afin que nous soyons, pour cette création tout entière, source de libération, source de rédemption, source de salut. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci.